Voigny. Cette semaine, Ilana Navarro rencontre Alice Cherki. Ce soir, écrire Fanon.
Bonsoir Alice Cherki.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté vos souvenirs du jour de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Vous êtes partie de l'Algérie 2 ans plus tard et vous avez atterri en France, où votre vie a pris un autre élan. Vous êtes devenue psychiatre et psychanalyste. Puis, vers la fin des années 90, vous avez ressenti un besoin très fort de revenir sur France Fanon, que vous aviez connu à l'hôpital de Blida presque 40 ans plus tôt. Comment cette aventure vous a-t-elle poursuivie au cours des années ?
Je ne peux pas dire que Fanon et son souvenir m'aient poursuivi pendant 40 ans. Ce serait tout à fait pas honnête du tout de dire cela. D'abord, il faut préciser que quand je suis arrivée à Paris, c'était d'abord pour finaliser mes études en français, puisque j'avais plein de diplômes d'Allemagne, etc., mais qui n'étaient pas à l'époque reconnus en France. Donc il fallait que je passe un certain nombre d'examens. Et puis aussi, je voulais faire une psychanalyse. Une chose qui m'avait quand même... Mais pas seulement pour moi. C'était une psychanalyse parce que compte tenu de tous les traumatismes qu'avait entraîné cette guerre, je pensais que je serais très utile en Algérie avec cette formation pour aider les gens à... enfin, pouvoir élaborer ces traumatismes, pouvoir les mettre en situation pour devenir, être englouti. Et je veux dire que le présent me donne raison. Mais c'est quelque chose pour lequel j'ai fait donc des allers-retours entre la France et l'Algérie, entre Paris et Alger à cette époque-là. Et je dis en plaisantant que si j'avais choisi de m'installer en Algérie... matériellement, ça aurait été plus facile. Parce que à Paris, j'ai quand même galéré. Hein. Pendant les 2 ou 3 premières années où j'étais là, les logements, les études, l'appartement, enfin, trouver un lieu pour loger, enfin, toutes ces choses-là que je minimise, mais qui ont quand même existé. Donc, mais cela étant, c'est vrai que j'ai continué à construire, à vivre, à m'intéresser, à interroger le monde autour de moi. Donc, vraisemblablement, dans ma conception, si vous voulez, de mon regard sur le monde et sur la façon d'être un psychiatre, psychanalyste par rapport aux gens, probablement la formation ou la rencontre que j'avais eue avec Fanon à 20 ans a sûrement, probablement, beaucoup joué. Je veux dire,
mais vous aviez l'idée d'écrire sur Fanon?
Non, mais alors, j'avais écrit plein de petits textes, pas oui, sur Fanon du tout, mais sur l'étranger, sur l'autre, sur la violence, des petits textes comme ça, pas du tout. Moi, je suis pas une public relations. Hein. Donc, mais il se trouve que dans les fins des années 90, d'abord, je regardais autour de moi, j'ai vu l'évolution quand même de la société. Quand même, entre 80 et 90, il y a quand même un tournant, y compris dans la société française. Je veux dire que il y a eu l'expérience de la mondialisation, comme disait Fanon, plus de capital d'industrie, mais capital financier. Il y a eu en même temps, progressivement, 2 choses... la ghettoisation, je veux dire, d'une certaine catégorie de population qui n'existait pas dans les années 70, qui était beaucoup moins visible dans les années 70. Et autre chose, je pense, les silences. Les silences sur l'histoire. C'est-à-dire, surtout, on en a vu le résultat dans les années 90, c'est qu'il n'y avait pas de représentation, je veux dire, en France et même en Algérie, complexe, qui pouvait parler aux descendants des émigrés algériens.
Vous parlez du silence autour de la guerre d'Algérie.
Le silence autour de la guerre d'Algérie, de la colonisation. C'était comme si ce qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu. Et voilà, c'était un silence. Il y avait quelques écrivains qui essayaient de témoigner, etc. Mais Mais il y avait un silence global. Je veux dire, cette histoire était... Et je trouvais que ça commençait à faire beaucoup de tort pour l'évolution. D'ailleurs, je veux dire que les années postérieures n'ont pas donné tort pour l'évolution de ce qu'allait devenir la société française. Et là, en plus, il y a un truc qui a été un peu déclencheur. Mais ça, c'est un truc parmi d'autres. Vous savez comment se constitue un désir de passer à l'acte de ce désir-là. Je voyais bien que, par exemple, dans le livre de cet historien qui avait fait un dictionnaire des écrivains du XXe siècle, quand vous regardez l'index, vous avez une ou deux fois Fanon. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et quand vous allez à ce truc-là, c'est la préface de Sartre.
Oui.
Fanon, ça n'existe pas. C'est Sartre qui existe avec sa préface écrite sur Fanon. Il n'y a pas un mot de l'œuvre de Fanon, de ce qu'il pouvait avoir dit, apporté, etc.
Donc, parce qu'il faut le dire quand même que Sartre a écrit la préface du dernier livre de Fanon, Les Damnés de la Terre,
oui,
publié en 1961. C'est ça?
Oui, en 61.
Donc, vous trouviez que...
Donc, il y a tout ça. En Algérie aussi, après un moment... où on a beaucoup parlé de Fanon au lendemain de l'indépendance, où il y avait des études, même à l'université, où il y avait même deux petits livres, mais paradoxalement faits par des étrangers.
Paradoxalement ?
Ben parce que ce n'était pas les Français qui ont écrit sur Fanon au début.
Et vous trouviez qu'il y avait une vraie lacune à ce niveau-là ?
Oui, je trouvais. Et Fanon commençait à déranger, sa pensée commençait à déranger et à tomber dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il y avait ce que j'appelle la mémoire monumentale, on fait des monuments partout, vide de sens. On donne le nom d'une rue, le nom d'un collège, le nom d'un hôpital, mais le contenu de ce que Fanon espérait transmettre, effacé. Donc ça a été aussi un mouvement, après les années 70, entre les années 80, etc., très, très singulier. Je ne peux pas parler de l'ensemble du monde. C'est vrai qu'aux États-Unis, Fanon a été, au contraire, très étudié. Mais toujours, si vous voulez, chacun prend ce qui le concerne, quoi il peut s'identifier. Donc les Black Panthers ont pris ce qui pouvait les concerner. Le colonialisme intérieur, pour découvrir qu'eux aussi ils étaient décolonisés. Chacun a pris sur le politique, sur... chacun a pris la part de Fanon et l'a tirée dans ce sens-là. Et moi, j'avais envie de dire autrement. J'avais envie de montrer d'abord que Fanon était un grand précurseur dans le lien qu'il faisait entre toutes les aliénations, que ce soit l'aliénation politique, l'aliénation juridique, l'aliénation culturelle et l'aliénation du sujet. De l'individu sujet. Autrement dit, Fanon psychiatre, Fanon engagé politique, Fanon penseur, Fanon écrivain, c'était la même démarche, que c'était quelqu'un qui, à partir de son expérience vécue, mettait cette expérience vécue non seulement en acte, mais en pensée qu'il désirait transmettre. Le lirait qui pourrait, mais le désirait transmettre. C'est sûr, on ne peut pas s'en empêcher, ça. Puisque, avec nous-mêmes, il voulait transmettre, y compris dans le quotidien. Donc, je voulais restituer ça. Et restituer ça, non seulement dans le contexte de l'époque, qui était aussi devenu très obsolète, mais aussi pour le contexte d'aujourd'hui. Voilà, c'était ça. Ça s'est fait comme ça.
Et vous l'avez écrit très vite, je crois.
Je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit en quelques mois. Mmh.
Une biographie de Frantz Fanon a été publiée plus ou moins dans la même année, il me semble, en l'an 2000, écrite par David Macy.
En anglais, oui.
En anglais, oui. Contrairement à cette biographie, en lisant le portrait que vous avez écrit, on sent une identification très forte à ce psychiatre noir impulsé dans l'Algérie coloniale, presque comme si vous racontiez votre propre vie à travers ses yeux. Est-ce instinctif ou réfléchi d'écrire comme ça ?
Ben, c'est votre idée. Je ne pense pas que ce soit que je pourrais y souscrire. Je ne pense pas du tout que je me sois. Je ne pense pas du tout que je me sois identifié à Fanon pour des multiples raisons. D'ailleurs, parce que nos trajets étaient complémentaires. En plus, quand j'écris ce livre, j'étais beaucoup plus vieille que l'année où lui est mort. Donc, enfin, beaucoup plus vieille, oui, j'étais beaucoup
c'est-à-dire
plus vieille.
C'est-à-dire, il est mort en 1961, subitement, alors
en
qu'il est...
Début 60, fin 61, début 62, il est mort à 36 ans. Oui. Moi, quand j'ai écrit ce livre en 1999, j'avais plus que 36 ans. Et puis, disons que si identification il y a, c'est une parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le même parcours... Mais c'est, comment vous dire, disons que dans ma, quelque chose, non, puis en plus j'ai pas le même, j'ai pas du tout le même caractère que Fanon, c'est pas vrai, mais disons qu'un certain regard sur le monde, un certain regard sur ce que c'est que la psychiatrie, probablement c'est quelque chose qui est plus ou moins consciemment, a été marqué par ma rencontre avec Franz Fanon. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas ce que j'aurais... Mais en même temps, quand je l'ai rencontré, c'est pas par hasard. C'est parce que déjà, j'avais ce genre de questionnement en moi que j'ai rencontré Fanon. Sinon, je l'aurais pas rencontré. Il aurait pas voulu aussi me rencontrer.
Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de que Fanon a vu dans l'Algérie quand il est venu...
Ah oui. Fanon ne connaissait pas réellement la colonie de peuplement. Enfin, je veux dire, vivre dans ce qu'était la colonie de peuplement, qui était quand même assez exceptionnelle en Algérie. Je veux dire, c'est paradigmatique. Tous les historiens peuvent vous dire que c'était quand même très... Oui, très paradigmatique comme colonie de peuplement en Algérie. Trois départements français, quand même, c'était pas... C'était pire que l'Angola. Puisque l'Angola, ce n'est pas un département portugais. Enfin, voilà. Donc, il découvre ça, Fanon, quand il arrive. Il avait bien une petite idée, puisqu'il avait travaillé avec les émigrés algériens à Lyon, qui lui avait fait faire pas mal de textes. Mais la réalité vécue de l'Algérie coloniale, Fanon s'est immergé là-dedans, en arrivant. Même s'il avait déjà écrit Peau noire et masque blanc, Le syndrome nord-africain. Et au début, il a surtout fait d'abord sa petite révolution psychiatrique à l'hôpital psychiatrique de Bida. Mais en même temps, il a bien vu la déréalisation de ce que c'était qu'être colonisé. Bon, ce qui a été après tout à fait repris par tout ce que moi j'appelle les successeurs de Fanon, que ce soit Saïd, Glissant, Membé, qui ont bien montré comment à la fois il faut qu'une culture soit en mouvement, que les cultures, comme Fanon disait, a dit, ça, il faut le dire et le répéter, c'était en 1956, à la fin de sa conférence au premier congrès des écrivains noirs, artistes écrivains noirs à la Sorbonne, il avait conclu son truc après avoir décrit l'horreur de la pétrification et de la façon de l'aliénation, quoi, de dire une fois le statut colonial terminé, les deux cultures réciproques s'enrichiront mutuellement vers un nouvel universalisme. Là aussi, il est très précurseur par rapport à ça, de créer, si vous voulez, quelque chose qui soit cette transversalité qui conduit au nouvel universalisme.
Justement, j'allais vous demander quelle était la critique de Fanon à l'universalisme.
À l'universalisme du 19e siècle, oui. Que cet universalisme transversal venu d'en haut, où la civilisation européenne est supérieure à tout, qui a été une pensée universelle du 19e siècle, que les Français ont beaucoup partagée. Ils n'ont pas été les seuls, mais ils ont quand même, eux, beaucoup partagé. Ils ont fondé beaucoup de choses là-dessus. Alors là, j'étais entièrement d'accord. Peut-être que c'est aussi parce que j'étais triplement minoritaire que ça me parlait.
Alice Cherki, est-ce que vous pensez que Fanon a été mal compris ?
Je pense que Fanon a été mal compris, c'est-à-dire qu'il a été compris partiellement. Par chacun de ceux qui voulaient tirer dans son propre intérêt, Fanon politique, Fanon tiers-mondiste, Fanon le héros des Noirs américains, enfin, ce qu'on n'a pas entendu, mais qui est d'une étrange actualité, c'est comment Fanon a mis en évidence, qui est très valable pour nos jours, que le moi, le sujet aliéné, et la société sont en complète interaction. Quand il dit que la liberté du sujet, c'est pour permettre à ce sujet de se réinsérer dans son univers social, et que de là découle à la fois que le psychiatre, il a pour tâche justement de transformer cette aliénation, cet enfermement, et que donc l'engagement du psychiatre est indissociable de son engagement à transformer les structures sociopolitiques productrices des conditions de l'aliénation. Donc ça, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire, et c'est reconnu, que depuis la petite enfance, depuis la naissance, que le moi se constitue en interaction avec l'environnement social. Et qu'il y a une interaction permanente entre le moi-sujet qui devient un grand, qui devient un adulte, avec la société qui l'environne. Et là aussi, c'est d'une très grande actualité dans beaucoup de pays, c'est que quand les structures sociaux, juridiques, économiques, etc., ne font pas partie, ne sont plus ce que le moi peut attendre de lui, c'est-à-dire qu'il soit un autre secourable, alors on assiste à des difficultés. D'ailleurs, Fanon disait que dans ces conditions-là, les hôpitaux psychiatriques sont beaucoup plus peuplés. Voilà. Et je dois dire que, au jour d'aujourd'hui, dans tous les domaines, cette pensée reste, entre autres, bien d'autres choses qu'il a dites. Ça, je voulais insister là-dessus, ça reste d'une très grande actualité.
Vous, en tant que femme, vous avez sans doute perçu Fanon autrement que ce de comment il apparaissait aux yeux de d'autres personnes qui ont écrit sur lui ou qui l'ont raconté.
Qui l'ont rencontré, oui. Oui, j'ai été frappée, là, dans différents entretiens comme ça, qui a pu avoir lieu. Ou même dans des poèmes, hein, quand, même Césaire, quand il écrit L'homme silex, c'est très ambivalent, en parlant de Fanon. Ou Chalian, ou Charby, que j'aimais beaucoup pourtant, disant « il était dur, il vous regardait comme ça », etc. Moi, dans mes souvenirs, c'est pas du tout la perception que j'ai de Franz Fanon. Je me dis « est-ce que me considérer comme, je sais pas, il aimait beaucoup transmettre, alors je sais pas, si je pense pas avoir eu un rapport, un destin privilégié à ses yeux, mais c'était un homme d'abord qui aimait beaucoup parler, qui aimait beaucoup rire, qui aimait beaucoup danser. Moi, j'ai vu Fanon à plusieurs reprises dans le doute. D'abord, je lui ai raconté cette lettre à sa mère quand il avait 18 ans, dans lequel il doutait et qui parlait de la mort, déjà, c'est important. Moi, je l'ai vu, par exemple, pendant qu'on travaillait ensemble, me dire « Ah, vous savez, je crois que je suis trop en avance par rapport aux gens qui m'entourent. Je ne sais pas comment faire, ça me fait souffrir. » Mais quand il a été rencontré Sartre à Rome, il passait chez moi. On était voisins à El Menza.
Voilà. À Tunis, donc.
Il était passé avant, assez fébrile, en me disant « Oui, Sartre va écrire ma préface, mais je ne sais pas très bien ce qu'il en pense, où il en est, etc. » Et quand il est revenu, il était assez exalté, mais déçu. Et je sais que je le sais pas de première main, mais je le sais quand même de façon assez directe, que quand on lui a apporté une extrémiste par un périple absolument incroyable, un exemplaire d'Année de la Terre à la sortie sur son lit de mort, il l'a lu. Alors il n'a pas simplement dit « c'est pas ça qui me rendra ma moelle », mais il n'était pas content de ce que Sartre avait écrit, notamment cette phrase « Lisez Fanon, vous saurez que dans le temps de leur impuissance, la folie meurtrière et l'inconscient collectif décolonisés. » Parce que Sartre s'est adressé aux Européens. Fanon, il n'a pas écrit ce livre pour les Européens, il a écrit ce livre pour les Africains, pour les... Bien sûr que les Européens aussi, mais c'était pas... Au dernier instant de sa vie, ce qui le préoccupait vraiment, c'était le sort des pays qu'on a appelés après les pays du tiers-monde, ou ceux qui étaient en voie d'indépendance, etc. Pour les pauvres, pour les damnés de la terre. C'est le seul titre qu'il ait choisi de tous ses livres. Hein. En bon psychiatre, Fanon savait que des idées de folie meurtrière appartiennent à tous les inconscients du monde, si on croit à l'inconscient, bien sûr. Et puis l'autre truc, alors plus terrible, qui n'était pas du tout l'idée de Fanon, il n'y a qu'à relire les chapitres qu'il a écrits dans « Sociologie d'une révolution », où il fait parler des Européens engagés. Alors par exemple, Sartre a écrit « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » Qui est à des milliers de kilomètres de la conception de Fanon et de son idée de l'universalisme, de la transmission. Je n'étais pas du tout le mec, j'allais dire, qui avait un fusil comme ça et qui allait faire une rixe dans la cour de l'école et tuer, abattre un Européen. Puisque même quand il a eu à faire, c'est d'ailleurs dans les troubles mentaux, dans un des chapitres des troubles mentaux, deux ados d'origine musulmane algérienne qui ont menacé ou même abattu, je crois, un de leurs petits camarades. Et vous n'avez qu'à relire comment il les interroge, c'est-à-dire comment il essaye de leur dire que c'est incompréhensible, que c'est pas comme ça que les choses se passent, essaye de leur faire prendre conscience de leur motivation plus ou moins consciente par rapport à ce geste. Et je sais qu'il n'aimait pas ça du tout, si j'ose dire. Personnellement, il détestait la violence. Hein. Il préférait bavarder des heures entières avec ses amis, danser quand on pouvait danser. Il n'était pas du tout un homme violent. Il n'aimait pas la violence, personnellement, Fanon. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale comme jeune volontaire. Il avait été blessé, etc. Mais autant la culture de résistance et le courage, pour lui, avec des doutes, était quelque chose qui lui appartenait. Autant la violence pour la violence, c'était pas son truc, du tout. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a constaté les situations, y compris du colonialisme et de la colonie de peuplement, dans lequel ça exerçait. Maintenant, on parle de violence d'État, mais là, c'était pire que la violence d'État actuelle. C'est-à-dire que le colonisé est invisible. Il est traité comme pas tout à fait humain. Et quels sont les effets sur celui qui est traité comme cela? Le doute de être pas tout à fait humain, c'est-à-dire ne pas être reconnu comme un sujet pensant, parlant, désirant. Ou bien on est complètement sidéré, on s'identifie à ce rien, on se prend pour un déchet. Ou on cherche à s'identifier à celui qui est le dominant. On essaie d'être comme lui, mais c'est aussi se supprimer comme soi-même. Ou alors, dans cette sidération, et ça c'est très connu, enfin je veux dire, comme mécanisme psychique humain ou comme mécanisme humain, on est complètement sidéré et on n'a pas de mots. Donc on a une espèce de mouvement pulsionnel qui peut être la rage, la colère, la violence, ça se traduit par une violence, qui peut se porter aussi bien. Il y a eu des cas où on tuait le voisin pour une histoire de mouton, des choses comme ça. Donc Fanon montre bien quel est ce mécanisme et il ajoutera, y compris dans Les damnés de la terre, que ce qui est important, que cette violence individuelle qui sort comme ça, quand il dit dans Peau noire et masque blanc son expérience de lion, quand le petit garçon dit à sa mère, oh, tiens maman un nègre, que la mère est extrêmement gênée, etc., mais qu'elle ne sait pas quoi répondre, etc., et que Fanon est lui-même complètement sidéré, tu vois, un jeune étudiant qui ne sait même pas s'il est noir ou blanc, qui se balade dans les rues de Lyon, bien habillé, complètement sidéré, et tout d'un coup ce qui sort c'est « Ce nègre vous emmerde madame ». C'est-à-dire que comment sortir de cette putréfication? Alors déjà ça, Fanon l'a très bien analysé. Et il a rajouté que cette violence individuelle, pour être constructive, doit être organisée en lutte collective.
Alice Cherki, en quoi l'œuvre de Fanon garde son actualité aujourd'hui?
Fanon a d'une part montré quelles étaient les impasses d'une certaine représentation qui sévissent sur le plan des représentations dominantes, dans la société, que ce soit du côté politique, social, culturel, et quels sont les moyens, soit de les accepter, soit de les changer, de les modifier. Voilà. Et quand il parle des damnés de la Terre, il parle bien de ceux qui sont sans espoir. Il ne veut pas de la mort à bout touchant. Autrement dit, être un homme, c'est réaliser quelque chose comme acteur de son histoire et acteur de sa place dans la société. Donc, actuellement, si vous voulez, entre tout ce qui est du côté de l'exclusion, tout ce qui est du côté des silences, de la façon dont on demande, semble-t-il, beaucoup, je le dis dans ma façon à moi, aux gens, non pas d'être des sujets, mais d'être plutôt des objets de la civilisation, des objets de ce qui se produit. Enfin, il me semble qu'on en a des exemples quotidiennement. Je pense que la pensée, la lecture de Fanon va vraiment à contre-courant et donne des pistes par rapport à ça. Voilà. Pour le dire très, très simplement. Très, très, très simplement. Parce qu'il montre aussi à la fois les ressorts en place, si vous voulez, par rapport à cet assujettissement, et comment individuellement et collectivement il est possible de faire face. Non seulement de faire face, mais de restaurer, ce qui était très important pour lui, sa liberté de sujet. Et ça, c'est dans tous ses textes. C'est aussi de montrer justement la transversalité des cultures. Dans un monde où on est dans le repli identitaire, dans l'exclusion de l'autre, partout, hein, que ce soit au nord, au sud, etc., l'autre, c'est un ennemi étranger. Dans un monde de repli, complètement de repli identitaire, que tout ce qui n'est pas identique à ce que vous croyez être vous est hostile et dangereux, et être à rejeter, que ce soit sur le plan personnel, politique, autour de ça, c'est quand même extrêmement important de pouvoir renouveler la pensée de Fanon et l'écouter.
Merci Alice Cherki. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Ilana Navarro avec Alice Cherki. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Éric Audra, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.